Hey, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Cette semaine, on a une grosse semaine. On va commencer avec quelques nouvelles féministes. Évidemment, c'est la semaine de la Marche mondiale des femmes, fait que, ben, coudonc. Et quelques nouvelles anti-féministes aussi, ça c'est un peu plus particulier. Ça va être suivi d'un reportage, un retour en fait sur l'Assemblée publique qu'on organisait vendredi dernier dans Limoilou, Café Nagua. Puis, y a Janine qui a des nouvelles aussi.
Ça, on va parler de lien entre l'extrême droite britannique et le Tea Party américain. L'extrême droite qui s'en est pris en défilé de la fierté gay en Serbie, puis aussi de l'extrême droite qui prend des forces à Vienne.
Et en deuxième partie d'émission, on va avoir une entrevue avec le rappeur Webster de Limoilou Stars qui sort un album solo à la fin du mois.
Puis vous n'êtes même pas à Radio-Canada?
Eh non! Comment ça, ils jouent beaucoup à Radio-Canada ces temps-ci?
Ils l'ont appelé le rappeur intellectuel.
Oh,
yeah!
C'est pas problème, il s'appelle Webster.
Oh yeah! En attendant, moi, je vous ai préparé une émission reggae en musique et c'est du conscious reggae. On va commencer avec une bombe, un grand classique, Jimmy Cliff avec The Harder They Come. Sure as the sun
Et c'est reparti pour un tour sur les ondes de Sequoia 88.3 Québec. On entendait intercaler dans notre thème des slogans qu'on a pu entendre hier soir, mardi, le 12 octobre. C'était le lancement à Québec des activités régionales de la Marche mondiale des femmes. Alors, comme on l'a déjà dit là, quelques reprises, il y a 5 revendications, donc 5 journées thématiques qui vont nous mener jusqu'au 17 octobre, dimanche, une marche à Rimouski. Puis dans toutes les régions du Québec, il y a des activités à tous les jours là, sur les thèmes. Et donc hier, c'était la journée autonomie économique des femmes, puis là autour de ça, il y a deux revendications centrales, c'est-à-dire la hausse du salaire minimum et la fin des catégories à l'aide sociale pour arriver finalement à un revenu décent pour les femmes les plus pauvres, et en fait les personnes les plus pauvres, mais comme on sait que c'est très majoritairement des femmes, c'est ça. Donc il y a eu deux actions en fait dans le courant de la journée. Il y a des militantes de la coordination régionale de la marche des femmes, en fait surtout de ce que j'ai compris, des femmes de Rosemont puis de la DDS qui sont allées au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sur la rue Saint-Amable et qui ont redécoré artistiquement les vitrines du ministère avec un beau message en rouge, « La pauvreté, c'est assez », donc gros graffiti. C'était leur coup d'éclat de la journée. Puis en soirée, dès 19h, il y avait une manifestation, une marche de nuit en fait, au parc Lockwell, où il y a une centaine de marcheuses et peut-être une douzaine de gars en solidarité à la fin de la marche qui ont défilé encore une fois jusqu'au ministère de l'Emploi et de la Solidarité pour réclamer la hausse du salaire minimum et la fin des catégories à l'aide sociale, en fait, la fin de la distinction entre les personnes aptes et inaptes au travail pour qu'on arrive, que toutes les personnes à cité sociale finalement arrivent avec le même montant de base à l'aide sociale et qu'il y ait un barème plancher, enfin, pour sortir, c'est pour que ces personnes-là, finalement, puissent au moins répondre à leurs besoins essentiels. Donc, il va y avoir des activités là toute la semaine. Je vous invite à aller voir là, sur le site www.marchemondiale.org où est-ce qu'il y a le listing. Juste vous dire brièvement que jeudi, le 14 octobre, ça va être la journée de la violence contre la violence envers les femmes, en fait. Et là, ils vont exiger une loi contre les messages publicitaires sexistes et la mise en place dans les écoles. En fait, c'est surtout ça, le central, de cours d'éducation à une sexualité égalitaire et non sexiste et une garantie pour les femmes du droit inaliénable d'avoir des enfants ou non. Donc, un mix du droit à l'avortement, de l'éducation sexuelle et de la fin du sexisme dans la publicité. Donc, si ça vous intéresse, il va y avoir un rassemblement à 10h30 dans le stationnement en face de la gare du Palais, près de la Fontaine, puis ça va être suivi en fait en soirée d'un cabaret non mix, donc réservé aux femmes, qui va être dès 18h à la JT, au 251 Dorchester. Pis sinon, vendredi, c'est la journée pays démilitarisation, donc ils vont revendiquer le retrait des troupes canadiennes d'Afghanistan, puis la fin du recrutement militaire dans les écoles. Il y a un rassemblement à 17h au parc Georges V. Celle-là, elle va être relativement importante dans la mesure où la FFQ a été attaquée de front sur la question de la militarisation. Entre autres, là, la capsule qu'ils ont faite où est-ce qu'il y a une mère de militaire qui dit qu'avoir su qu'elle mettrait au monde la chair à canon, elle aurait peut-être pas fait d'enfant. Et donc comme ils sont attaqués là-dessus fortement, vous êtes fortement invités à participer au rassemblement prévu à 17h au parc Georges V. Il va y avoir une marche qui va commencer à 18h. Samedi, c'est les femmes autochtones et dimanche, c'est la marche mondiale à Rimouski. Puis là, on dit la FFQ est attaquée. Puis là, les auditeurs et les auditrices de Voix de Fée, de Sequoia et les gens de notre acabit en général, peut-être qu'ils ont vu dans la presse Marie-Claude Lortie, chroniqueuse émérite à la question féminine, qui revendiquait la création d'une nouvelle organisation vraiment représentante des femmes québécoises, parce que la FFQ n'est pas représentante.
Genre le groupe des nouvelles conjointes, là.
En fait, elle voulait une organisation féministe, mais qui s'occuperait juste de questions féminines. Donc, juste de questions de sexualité, d'avortement, mais pas de questions économiques, parce que ça, c'est des affaires gauchistes.
Oui, puis en plus, avoir des enfants, c'est pas une question féminine.
Ah oui, pour elle, avoir des enfants, c'est une question féminine. C'est pas une réactionnaire, c'est une libérale, mais elle trouve qu'ils sont trop à gauche, la FFQ. Puis là, ça, c'est la version polie, parce qu'il y a des attaques beaucoup plus sournoises dans des médias qu'on écoute un peu moins, en fait, beaucoup plus violentes, et on revient souvent à Québec sur la question de la droite populiste, puis de, tu sais, à quel point on est une région à droite, puis il y a des choses qui s'écoutent et qui se disent à la radio, et puis notre espion, Alors, François, qui écoute des fois la radio populiste, est tombé sur Sylvain Bouchard ce matin même, alors mercredi le 13 octobre, qui a fait une longue tirade contre les féministes, mais c'est juteux. On n'a pas eu le temps de monter un PPP, une parole populiste publique, mais j'ai quand même sorti 3 minutes de son intervention matinale. Alors, attention, âme sensible, s'abstenir, c'est assez violent, mais ça vous donne une idée, en fait, de ce qui se dit contre la Fédération des femmes du Québec dans certains milieux. Alors, on va mettre ça à l'instant.
Êtes-vous tanné, là je m'adresse aux femmes, êtes-vous tanné de voir ces féministes-là à la télé qui sont supposés vous représenter, qui parlent pour vous, qui sont subventionnés par vos taxes et impôts? Ben, à chaque fois qu'on les voit à télé, c'est toujours une femme pas trop belle qui chiale contre une autre qui est belle puis qui a décidé de poser en bikini dans un journal. Êtes-vous écœuré si vous êtes une femme puis vous avez voté ADQ? Ça se peut, ça? Ou conservateur? Ben, comment ça se fait que toutes les féministes sont tout le temps pro-Québec solidaire, gauchistes à mort, contre la guerre, contre les capitalistes? Mettons que vous êtes une femme d'affaires, vous avez une business. Comment ça se fait que les féministes disent qu'il faut monter le salaire minimum à 11$ de l'heure, comme si toutes les femmes voulaient ça? Ce serait une catastrophe, le salaire minimum à 11$ de l'heure. Les shops fermeraient une par une, ça donne rien. Remarque, je respecte très bien l'opinion contraire de quelqu'un qui me dit « Non, moi, je suis pour que... » Ça, c'est correct, ça s'appelle un gauchiste. Mais pas une féministe. Je les entendais hier, « Faut monter le salaire minimum. » C'est toutes les femmes qui pensent ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec le combat des femmes? C'est un combat de gauchistes, la hausse du salaire minimum. C'est un combat que je respecte. Les féministes ont été infiltrées, noyautées par une gang de lesbiennes jalouses, par une gang de communistes politiques. Ça n'a rien à voir avec le combat des femmes. Pas toutes, mais il y en a. C'est noyauté à mort. Et je suis convaincu qu'une femme moderne, belle, bien dans sa peau, qui a besoin de personne pour avoir sa job, qui a pas eu besoin qu'on triche dans les appels d'offres, une femme intelligente, moderne, en a rien à foutre des féministes actuelles. Donc, on va créer un mouvement de féministes modernes. Le FM 93. Ben, c'est pas moi, c'est Marianne, mais moi, je suggère, si jamais ça vous tente. J'ai reçu bien des courriels hier, plein de femmes. Puis à chaque fois, on a déjà parlé de ça avec José en masse, puis à chaque fois, on est inondé. Les femmes disent, exact, on est tannés. Ces madames-là à télé parlent pas en notre nom. Nous ne sommes pas jalouses, pas parce qu'on fait plaisir à nos maris un soir en s'habillant sexy ou en faisant une petite faveur sexuelle, qu'on est des soumises puis des putes. T'es entends parler, ces féministes-là, mais c'est tout le temps ça. La femme qui est belle, la femme qui est coquette, la femme qui est libérée sexuellement, c'est une catin puis une pute. Alors que celle qui se voile au complet, ça les dérange plus ou moins, ça. Une femme voilée, alors que moi, c'est le contraire, c'est la femme voilée qui me dérange. La femme dévoilée, en autant qu'elle respecte les lois, là, pas dans la rue, tout ça, là, elle me dérange pas, moi. Dévoilez-vous, ça vous tente. Si ça vous tente, pas que vous soyez forcé par quiconque, par une mode, par un mari, ben, ça vous tente, dévoilez-vous. La femme qui se voile puis que ça étame pas trop, ça me dérange, ça heurte mes valeurs. Alors, j'ai vraiment l'impression que le mouvement féministe au complet, au Québec, a été dénaturé, défiguré, infiltré par des femmes qui n'aiment pas les hommes. Et par des femmes qui sont des ultra-gauchistes, qui se servent de fonds publics pour pousser leur agenda socialiste politique. Il faut mettre un terme à ça.
Hey, ben moi j'ai comme l'impression que les ondes de la radio privée FM à Québec sont infiltrées par des clowns démagogues de droite qui essayent de bourrer le crâne de leurs auditeurs puis qui se font du cash sur des niaiseries et des préjugés. Enfin, bon bref, c'était Sylvain Bouchard au FM 93. Puis c'est juste pour vous dire là, quand que on dit là qu'il y a une droite populiste à Québec qui emmène l'ange là, ben c'est ça qu'on peut entendre sur les ondes du FM le matin.
Le pire, c'est que
dans les bouchons de trafic.
Le mec a été tellement pire, tellement plus crasse avant, que ça passe pour modérer.
Mais oui, c'est modéré certain. Ils mettent tout dans le même panier.
C'est tout pareil.
Il fait une charge islamophobe, en même temps qu'antiféministe, homophobe, et let's go Chicago. Fait qu'on espère que dimanche, le 17 octobre, il va y avoir plusieurs milliers... voir une dizaine de milliers de personnes dans les rues de Rimouski, parce qu'on s'entend, là, c'est Rimouski, c'est pas Montréal, c'est pas nécessairement simple de ramener des dizaines de milliers de personnes, mais qui va avoir beaucoup de monde pour tout leur faire, tous ces commentateurs-là, leur faire ravaler leurs affabulations sur la représentativité de la FFQ. Et soit dit en passant, juste pour terminer là-dessus, la Fédération des femmes du Québec, là, j'avais coupé, là, parce que bon, il y en avait pour 7-8 minutes de tartines antiféministes. On les accuse, on dit, ah, il y a juste 700 membres dans la FFQ. Ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a 700 membres individuels. Mais on parle pas des regroupements de femmes d'affaires qui sont membres de la FFQ. On parle pas des groupes communautaires qui sont membres de la FFQ. La FFQ, c'est une organisation qui a un membership individuel et collectif. Il y a les deux. Donc c'est de faire injure à l'intelligence des gens que de s'attarder seulement. Hey, c'est beau en chien, là. Je sais pas combien il y a de membres individuels à FTQ, mais tu sais, si t'enlèves là, les syndicats, combien il reste de membres individuels? Zéro. C'est quand même hot, là, la FFQ. Ils ont 700 femmes membres individuellement de l'organisation.
La plupart des organisations, ben, comme la FTQ, c'est un regroupement de groupes.
D'organisations?
C'est ça.
Mais c'est la même chose. C'est la Fédération des femmes du Québec. C'est pas le... Enfin, bon. On va partir avec, tiens, un slogan qu'on a entendu hier, puis je trouve que ça va bien avec Bouchard. Après ça, on s'en va en musique.
Yes, sir.
Sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Et vendredi dernier, le 8 octobre, il y avait une assemblée publique dans Limoilou au Café Nagua. Et on vous en a ramené un petit quelque chose, une synthèse, disons-le comme ça.
Alors, bonsoir, bienvenue à une première tentative, en fait, pas une tentative du tout, à une assemblée publique organisée par... Le collectif anarchiste La Nuit, c'est dans le cadre d'une campagne sur la question du budget libéral et en fait de la riposte sociale face à ça.
Pour Pierre-Élie Huppé, militant de l'Université Laval, la stratégie du gouvernement en est une préparée de longue date.
Augmenter les frais de scolarité, quelque chose qui touche tout le monde, on a réussi à diviser les gens sur cet enjeu-là, malgré que l'enjeu touche tout le monde, en disant, on a créé une idée de crise, on a créé une idée de peur, de manque d'argent, etc. Puis, c'est aussi un travail qui se fait sur longue haleine. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an dans les médias qu'on crée l'absence d'argent avec le contexte de la crise économique, alors que ça fait 10 ans qu'on coupe les impôts régulièrement. Puis une fois qu'on coupe les impôts, ben, quand il arrive une crise économique, c'est nécessairement qu'il n'y aura plus d'argent au gouvernement, puis c'est nécessairement que ça va être le bon moment pour couper les services sociaux.
Marie-Ève Duchesne de Rose-du-Nord explique comment les mesures contenues dans le dernier budget touchent plus particulièrement les femmes.
Ce dernier budget-là, dans le fond, nous a confirmé qu'on vivait officiellement, c'est une chose qu'on savait depuis longtemps, mais qu'on était officiellement dans un état de droite. Un budget qui s'en va dans la privatisation. Donc, qui dit privatisation dit déséquilibre dans les richesses. Qui dit déséquilibre dans les richesses dit appauvrissement des déjà plus pauvres, donc des femmes. Un budget qui s'en va dans la tarification, qui va affecter encore une fois les plus pauvres, et qui dit plus pauvres dit les femmes. Un budget qui va couper dans les services publics et qui travaille majoritairement dans ces services publics-là, les femmes. Qui devra pallier à ces services publics-là qui ne seront plus offerts à l'ensemble de la population, les femmes. Donc, c'est un retour à la période peut-être où pour accoucher, il faudra s'endetter, qui sait.
Du côté du mouvement communautaire, on écoute Vania Wright-Larrain.
Pour ce qui est du budget, ben, le budget, il fait la deuxième vague au néolibéralisme au Québec, une deuxième vague où est-ce que c'est une gang de bandits, appelons-les par leur nom, là, je veux dire, c'est des bandits qui se sauvent avec la cagnotte avant de perdre les élections. C'est à ça que ça ressemble, puis c'est ça que je pense que tout le monde en fait comme lecture. Ils ont parlé d'électrochoc, ils ont pris le discours des médias, le discours de... là, je perds un mot, mais c'est vraiment les néolibéraux, la nouvelle école, la nouvelle droite qui se grandit puis qui impose ses politiques à travers partout dans le monde. C'est pas une particularité du Québec. Ça ressemble à ce qui se passe en Europe. Ça ressemble à partout. Puis ça, ben c'est une lecture que le mouvement communautaire fait depuis des années. Puis ça, c'est important de le dire dans un sens. Le mouvement communautaire n'a pas été surpris. Il s'organisait déjà. On a été surpris par l'ampleur, par la force avec laquelle ils ont fessé dans le tas. Mais pas surpris du virage qui se passait. C'est pas des nouvelles. C'est quelque chose qui a commencé depuis au moins 10 ans avec le déficit zéro du Parti québécois. Alors, si on revient là à l'année passée, ça faisait déjà plusieurs mois que, entre autres, le mouvement communautaire puis notre mouvement, le mouvement d'éducation populaire en action communautaire, s'organisait dans la coalition opposée à la tarification et à la privatisation à Montréal. Le 1er avril, c'était une pointe de chute de cette mobilisation-là pour une manifestation à Montréal. Ça a tombé bien, ils ont déposé le budget juste avant. Fait qu'on a eu une belle manif juste après le budget. Ça a fait chic et beau. Mais après ça, il a fallu comme recommencer. Puis c'est pas de l'organisation facile, c'est de l'organisation de longue haleine. Puis avec les... En tout cas, pour le secteur du communautaire, avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire des pinottes, c'est pas évident de dire qu'on va mener des grandes batailles. Sauf que pour l'instant, on peut dire qu'on a relevé le défi de au moins avoir un discours agressif et violent contre ce budget-là. Ça s'est passé pas juste dans le mouvement d'éducation populaire, mais ça s'est passé dans le mouvement anti-pauvreté, dans le mouvement pour le droit au logement. Ça s'est passé un peu partout. Et fait nouveau, ça se passe un peu aussi, outre les grandes centrales syndicales, ça se passe aussi avec des syndicats qui ont mis leur l'épaule à la roue dans la coalition contre la tarification. Et la FFQ aussi, qui a comme, mais disons-le, tu sais, hausser le ton énormément dans les derniers mois, années, avec l'aboutissement de la marche mondiale. Je veux dire, on tombe dans des gros moments en ce moment.
Tous les mouvements sociaux n'étaient pas présents de la même façon sur le terrain, comme le rappelle Danny Harvey, organisateur de la FTQ.
Ben là, je me retrouve être le syndicaliste de service, que je vais avoir des interventions bien plates, mais bon, faut avoir du contenant pour amener du contenu. Très souvent, des fois, on met souvent de la pression sur le mouvement syndical pour régler mer et monde. On n'est plus dans les années 50 que le mouvement syndical était présent partout, qui était un coup de main pour donner n'importe quoi. Le mouvement syndical ne cache rien des groupes sociaux. Pourquoi le mouvement syndical n'était pas présent? Là, ce qui se passe dans le secteur public, là, avec le budget, c'est plate, mais le mouvement syndical n'est pas concerné. Le monde n'aimeront pas dire « Ah non, c'est pas... » Globalement, il devrait être concerné en principe absolu, d'une manière hyper corporatiste. Actuellement, j'avais juste des points bien rapides. Négociation du secteur public. On convient-tu que les forces syndicales vont se concentrer sur le secteur public, même si c'est une tarification? Ce que je dis, ça me ment tabarnak, mais c'est ce qui se passe, soit dit en passant. Les forces sont concentrées, c'est négo du secteur public. Puis les dernières fois qu'il y a eu des négociations qui se sont passées, que les fronts ont sorti, c'était par rapport aux négociations du secteur public. On va arrêter de se faire des pit-pit les moineaux concernant les syndicats titrés. Aussi, tu as des gros conflits de travail qui sont assez difficiles. Notamment, je parle notamment avec la CSN, le Journal de Montréal. Ça a l'air de rien, mais ça demande du jus en hostie pour un syndicat, même pour une centrale. Le mouvement syndical, là-dedans, la lutte qui se passe, c'est beaucoup des trucs du communautaire, mais le mouvement syndical doit être présent. Être présent, mais je dirais en soutien. Parce que c'est pas sûrement évident d'être là, parce que le mouvement syndical, comme on disait, c'est pas pantoute de ce qui se passe.
Pour relancer la lutte, Marie-Ève Duchesne suggère de s'inspirer du mouvement des femmes.
Dans les 50 dernières années, le mouvement des femmes a quand même été efficace parce qu'il y a quand même eu des gains au Québec, des victoires bon, qui sont toujours pas un acquis là, parce qu'il n'y a rien d'acquis pour nous, mais ce qui caractérise beaucoup ce mouvement des femmes-là, je pense, c'est la créativité, l'originalité des divers moyens d'action qui ont été utilisés à travers les années. Je pense que déjà ça, pour faire reculer le gouvernement libéral, de changer nos moyens d'action, de renouveler nos moyens d'action, je pense que déjà là, on pourrait tenir quelque chose. Donc, la classique manifestation, c'est peut-être plus ce qui est efficace. Ceci étant dit, pour moi, ce n'est pas, faut pas arrêter. Parce que si on veut imposer ce qu'on veut, ça demande, je pense, une démarche qui est plus grande que ça. Puis c'est pas demain matin qu'on va le faire. Mais c'est de maintenir avec nos actions, avec le fait qu'on sorte dans la rue, maintenir une pression constante. Puis finalement, moi, je pense qu'on est rendu aussi à un message où il faut dénoncer radicalement le système capitaliste et patriarcal. C'est les deux maudits problèmes avec lesquels on est pogné. Donc, bâtir quelque chose de différent, c'est là qu'on est rendu.
Daniela Clarin a fait part du plan d'action de la Coalition nationale opposée aux tarifs et à la privatisation.
Sinon, pour la coalition opposée à la tarification, le plan qu'on a en ce moment, c'est de faire une tournée de formation à travers le Québec. C'est de parler des enjeux avec le plus possible le monde à l'extérieur des groupes aussi. Sortir un peu de notre gang habituelle, puis essayer de rejoindre les gens qui cherchent à avoir des réponses, qui cherchent à réfléchir sur la politique, alors que ça fait des années qu'ils n'ont pas pensé à ça. Puis qu'ils se sont mis la tête dans le sable, puis qu'ils ont regardé passer le train, ben là, ils disent « Crime, ça m'intéresse un peu finalement. » Fait que ça, c'est le plan, puis ça peut paraître plate comme moyen d'action, sauf que moi, personnellement, avec la courte expérience que j'ai dans le mouvement, c'est peut-être le meilleur plan qu'il y a eu au niveau national depuis 10 ans. C'est-à-dire une tournée de mobilisation sur les enjeux qui nous concernent tous et toutes. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il peut faire. Il ne faut pas faire semblant qu'on a réussi à avoir 25 000 personnes à Montréal puis que ça va aller de soi, on va avoir 50 000 le prochain coup, puis dans 2 ans, on aura 100 000 personnes pour les élections. C'est pas ça qui va se passer parce que notre mouvement, il est en construction, puis il a pris des forces, mais en ce moment, il faut qu'on aille chercher bien d'autres mondes. Ça prend, pour chaque personne qui sont sorties dans la rue le 1er avril après le budget, ça prend au moins 10 autres personnes qui vont sortir dans la rue d'ici un an, si on veut faire de quoi de réellement.
Le mot de la fin à Mathieu Courcel du collectif Anarchiste la nuit.
Ça m'étonne que personne n'ait mentionné depuis le début des présentations, mais une idée est ressortie quand même assez fortement après cette manif-là, justement, du 1er avril, où il y a quand même plus de, je sais pas, 10 000, 15 000 personnes qui sont descendues dans la rue. Tout de suite après, la coalition qui a organisé la manifestation a lancé une idée, un mot d'ordre très important, à mon sens, et au sens d'ailleurs des membres de l'UCL au Québec, de l'Union communiste libertaire, dont notre collectif fait partie. C'est l'idée d'organiser une grève sociale pour justement forcer le gouvernement à reculer sur son budget. Une grève sociale, donc une grève politique, une grève générale, une grève illimitée, mais qui touche non seulement les salariés, mais l'ensemble de la population, étudiants, sans emploi, les groupes sociaux, les mouvements sociaux y compris. Et ça, à mon sens, en tout cas, et au sens de plusieurs, il y a quand même plusieurs conditions nécessaires pour qu'un mouvement comme celui-là apparaisse qui sont manquantes actuellement. À ce moment-là, effectivement, la meilleure chose, c'est probablement, comme le disait Vania, de revenir à la base et de développer des campagnes d'éducation populaire qui vont nous permettre de mener des actions en crescendo. Pour essayer d'aller plus loin, il y a quand même quelques perspectives qu'on peut mettre de l'avant. D'abord, si l'unité est difficile par en haut, là, j'entends là, entre nos mouvements sociaux, les directions syndicales, ben, il y a peut-être moyen de pousser à cette unité-là qui semble si difficile à obtenir en s'organisant par en bas. Et ce soir, c'est un moment justement, je crois, important pour se parler, pour discuter entre nous et amener peut-être des idées, des propositions qui vont nous permettre d'aller plus loin ensemble. Vania l'a mentionné, il y a quand même quelques grands moments qui s'en viennent. La Marche mondiale des femmes le 17 octobre qui va culminer par une grande marche à Rimouski. Peut-être des actions aussi contre le sommet des partenaires en éducation. Il y a des consultations prébudgétaires qui s'en viennent cet hiver. Il y a le 1er mai aussi qui, à Québec, va probablement se réorganiser encore cette année en 2011, l'année prochaine en 2011. Il faut s'organiser pour ces grands moments-là. Il faut être nombreux et nombreuses. Et il faut ramener nos objectifs, nos mots d'ordre dans ces manifestations-là. Dans la région de Québec, je pense qu'il faut commencer à pousser, et il faut pousser sur la mise sur pied d'une coalition régionale qui soit efficace. Une coalition régionale qui va regrouper des assos étudiantes, des groupes populaires, des syndicats de base, et qui va mettre en œuvre non seulement un plan d'action qui probablement va se vivre, se faire dans différentes régions du Québec, mais impulser sa propre dynamique de lutte, ses propres idées, ses propres mobilisations. Évidemment, il y a toutes sortes de tendances qui vont peut-être s'exprimer dans cette coalition-là. Il faut peut-être essayer d'amener des pratiques un peu plus en rupture avec le train-train habituel, des revendications qui vont un peu plus loin de ce qu'on entend habituellement. Et une autre idée qu'on commence à réfléchir du côté de notre collectif politique, c'est la mise sur pied d'un comité de mobilisation intersectoriel, c'est-à-dire où non seulement on retrouve des gens qui sont déjà impliqués dans des associations de locataires, dans des groupes populaires, des syndiqués qui sont là à la base, dont, par exemple, leur organisation ne serait pas membre de la coalition, des étudiants ou des étudiantes qui, dans leur département, dans leur association, seraient peut-être plus isolés, et se mettre ensemble pour se rejoindre et aussi s'appuyer mutuellement.
Oui, donc c'était un bref aperçu, bref, c'est relatif, là, de l'Assemblée publique qui a eu lieu vendredi dernier. Si vous voulez l'entendre au complet, on l'a mis sur notre blog Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. Là, vous avez vu une petite partie du panel. Il y a aussi beaucoup d'interventions dans la salle. Le collectif va donner des suites à ça, faire un post-mortem si vous voulez être tenu au courant. Évidemment, vous continuez d'écouter Voix de fait. Vous pouvez aussi nous écrire, peut-être, qui sait, qu'il y aura la formation d'un comité de mobilisation régional à Québec dans les semaines à venir. Who knows? Il y a Janie qui a des nouvelles internationales.
Oui, des mauvaises nouvelles comme d'habitude. Là, en premier, c'est selon le site web du journal britannique Guardian, il y aurait des liens entre le groupe des syndicats britanniques English Defence League, qui est à l'origine de plusieurs manifestations selon ce que ces membres appellent l'islamification de certaines villes du Royaume-Uni, qui aurait des liens entre cette organisation-là puis le mouvement ultra-conservateur du Party aux États-Unis. L'américaine Pamela Geller, dont l'influence est reconnue parmi les opposants au projet de centre culturel musulman New York, pas loin du ce qui était les deux tours du World Trade Center avant, Ground Zero. Elle a rencontré des dirigeants de cette organisation-là à New York, selon Guardian. Elle a dit qu'elle se défend sur son blog, alors c'est pas des racistes, c'est pas des fascistes, mais pourtant quand t'es à l'extrême droite, souvent t'es pas loin de ça. Le site web de l'Église de Defense League, fermé pour ouvrir quelques reprises, il comporte des épargnés vers le blog de Pamela Geller, puis aussi c'est des liens vers le site Jihad Watch, qui présente habituellement l'islam de manière négative. La plus récente manifestation de l'English Defense League a eu lieu à samedi à Leicester, près de Birmingham, au nord de Londres. Environ un millier de militants de ce groupe-là étaient présents dans cette ville où vivent d'un groupe musulman. Un groupe privé de la gauche antifasciste a tenu une manifestation concurrente, mais ce groupe-là est nommé dans l'article. Il y a eu des affrontements entre la police et les manifestants. Il y a eu une dizaine d'arrestations du côté des nazis. Il y a un expert en droit de l'homme qui était cité par le journal qui estime que le mouvement qui faisait à l'origine la promotion des conservatives économiques et pas des Tea Party laisse maintenant entrevoir des éléments d'un discours opposant l'islam et l'Occident. Oh. De manière que ça s'enligne, peut-être qu'on aurait pu, ce serait peut-être plus juste une question économique, peut-être que... Bon, des éléments racistes qui vont finir par prendre dans ce mouvement-là. Deuxièmement aussi, ben ça passe encore en Europe, c'est l'extrême droite qui s'en est pris au défi de la fierté gay en Serbie, à Belgrade, dimanche dernier. Ça, c'est... Il y a eu des violents affrontements des groupes de jeunes homophobes qui voulaient empêcher le déroulement du défilé, les policiers et qu'eux devaient le protéger. Plus de 140 personnes ont été blessées, pour la plupart des policiers, puis depuis 200 émeutiers, souvent calculés, qui ont été interpellés. Les quelques 1000 participants à ce défilé qui ont été obligés de retarder la marche du Nord à cause des affrontements de la police puis les jeunes de l'extrême droite. Il y a aussi des responsables hospitaliers qui ont déclaré à l'agence France-Presse qu'un groupe de jeunes avait attaqué le siège d'une organisation de défense des droits des femmes durant la nuit. C'est une organisation de femmes en noir, les agresseurs cherchaient des homosexuels. Puis, juste pour dire à quel point ça a l'air assez... tendu la situation là-bas. Les groupes d'extrême droite avaient interrompu le défilé de la Fierté Gay en 2001 et forcé les organisateurs à annuler la marche en 2009 parce que le gouvernement a fait savoir qu'il pouvait pas garantir la sécurité des participants. Ils ont comme décidé de s'arranger pour que ce soit sécuritaire pour le monde qui voulait même marcher. Puis la troisième mauvaise nouvelle, ça se passe encore en Europe, à Vienne. En fait, c'est l'extrême droite qui a pris des forces dans la capitale autrichienne. On parle du gouvernement municipal. C'est le Parti de la liberté de Hans Christian Strache qui a presque doublé ses appuis aux élections régionales à Vienne. C'est un parti qui milite pour l'interdiction des minarets et du port du voile islamique. L'interdiction des minarets, là, il y avait eu un référendum en Suisse qui avait mené à l'interdiction de ça plutôt cette année. Ce parti-là a remporté 27% des voix, sont presque deux fois plus qu'il y a 5 ans. Puis là, maintenant, cette formation-là compte sur 28 sièges du Parlement municipal. Le Parti social-démocrate, qui est en tête avec 44% des voix, il a perdu sa majorité. Il a toujours formé une coalition, mais le chef a dit qu'il était impossible de former une coalition avec l'extrême droite. Puis, on sait ce qui est particulier, c'est que ce parti-là de Hans-Christian Strache, c'est le même nom que le Parti de la liberté de l'islamophobe Geert Wilders, qui avait réussi une percée sans précédent aux législatives aux Pays-Bas avec 24 sièges.
Hey boy. Ceci dit, il y a des journées de grève générale en France.
Oui.
Comme le 12 octobre, il y a 3 millions
ouais.
de travailleurs dans les rues.
C'est ça, le gouvernement en France, il disait qu'ils n'étaient pas capables d'avoir plus de personnes, puis ils ont battu des records. Là.
Effectivement. Donc, des bonnes nouvelles, comme chaque semaine, qui nous arrivent d'Europe. On va s'en aller en musique. On va revenir avec la grande visite. Il y a Webster qui passe par nos studios pour nous parler de son nouvel album.
Oui, puis il nous a fait un cadeau qu'on partage avec vous immédiatement.
Chaque jour que God fait pour nous c'est le same song. Sans le mot high-tech, je parle pas de Samsung. C'est le rap avec du poil, on m'appellerait Samson. Depuis le temps j'ai pris du poids, je viens pas les Samsung. C'est le hip-hop avec une arme, on m'appellerait Shang-Song. Malgré tout, j'suis bien content, surtout depuis que je chante souvent. Hauteville, Bossville, One Love, Québec, Orville. Ou bien One Hit, car ça pop comme Orville. Rated back, la haine se fit comme un hacker. C'est pas parce qu'ils sont derrière toi qu'ils ont ton back. Tu roules avec tes boss, qu'est-ce que l'un d'eux te vend. Et tu te sens comme Kennedy à Dallas, 22 novembre. J'ai 1200 raisons de ne plus truster personne. Même ça, j'ai mon flag comme Let's to be person. But still, c'est ride or die, laisse jusque dans le hearson. On vit la vie en live, y'a pas de rehearsal. Tu es à l'ouvrage, maintenant je suis une couleur sans. J'ai tracé mon sillage, j'y passe pas par orsin. Protège tous mes angles, ton sens au centre comme un oursin. L'essence de rap étrange, un être hybride comme un oursin. En hausse, dans de drôles circonstances. On évite Babylone dès qu'on voit les circonstances. Nous empêche d'avancer comme Katy B sur Missouri. Avec une bûche entre les jambes, deux coups de masse sur les chevilles. Les groupes dont tu trouves, mais pourtant on reste discret. Pour tracer leur contour, on leur faudra au moins discret. Fais le bas des camps, des corps qu'on a laissé sur l'asphalte. La musique avait des fesses, la scène sourde à un ass flat. Vise le palmarès, la TI, et le flip. Reste qu'on n'est pas comparable, c'est comme un tuba avec une flûte. Comme le sida avec une grippe ou un foulard avec une tuque. Comme un cheddar. Avec un sit ou Godzilla avec un tig. Un chichilla avec un bit. Bien des bras avec un slip. Un pimpita avec une frite. Ou l'un des bras avec ta. Est-ce que là où t'habites tu vois les mêmes phénomènes. Ici faut faire ses preuves. Elle est le phénomène.
Center. gamine, hip-hop fou, commandant à la Idi Amin. Reste droit devant les teintes comme Mati et Namen. Des bosses de pétanque quand je tire la mine. La nature est la même, des couilles trempées dans le phare. Cache un rap qui décorche, c'est comme ramper dans le four. Mais un chien, c'est sous bad, même les troupes des litchi. Entre les doigts, on t'écrase comme un fou de litchi. Et la vérité, c'est que même assis au brunch, shit, c'est lis-moi loup autour de la table, c'est comme si on brunchait. Je fais du rap festin, on déchire la carcasse. Faire face au destin, c'est comme dans un car crash. Je me rappelle des bars crash où les gens te regardent croche. Une coupe de bataille trash où on t'en fait la tronche. Elle instituit hip-hop, un moment clé dans nos vies. Garde le reste sous le sol pour mater la panoplie.
Et je sais pas si vous êtes sur les mêmes réseaux sociaux que moi, mais c'est un vidéoclip qui commence à tourner tranquillement pas vite sur Facebook, MySpace, YouTube, un peu partout. C'est le deuxième, en fait.
Oui, c'est le deuxième semi-premier extrait de mon prochain album.
Hey, c'est Webster en fait qui sort quelque chose. Le vieux de la montagne, comme le disent tous les poteaux,
ouais,
de Québec. Peu importe où ce que vous êtes, t'as marché beaucoup dans les dernières semaines.
Ah moi non, les gens toi. Oui.
Les gens oui, ont beaucoup marché. Donc il y a un lancement à Québec puis à Montréal d'un album d'un complet en fait.
Prochain album que j'ai travaillé ces dernières années d'arrache-pied, entre autres avec Tom, des deux tomes de Mauvaises Herbes et Claude Dacrophone à la réalisation.
C'est ton deuxième complet, là.
C'est mon deuxième solo en français, mais sixième en carrière.
Sixième en carrière.
Ouais.
Ouais. Ben justement, moi, je connais juste depuis le deuxième.
Okay.
Fait qu'il y avait pas tant que ça. Puis peut-être que les auditeurs non plus. Ceci dit, on te voit un peu partout. T'es comme l'icône hip-hop de Québec. Quand il y a un journaliste qui veut parler à quelqu'un, c'est toi qui vas voir. C'est quoi ton cheminement dans l'hip-hop? Qu'est-ce qui t'amène à ce...
Ben, je te dirais, j'ai commencé à faire du rap en 1995. Ça fait 15 ans de ça, la moitié de ma vie. Puis à cette époque-là, le rap, c'était pas vraiment présent à Québec. C'était vraiment une mini-communauté, là, peut-être centaine de personnes, gros max. Puis on rappait, juste pour le fun de s'exprimer, d'être ensemble. Quand on était ensemble, tout le monde, on rappait. On appelle ça des ciphers sur un coin de rue, dans l'autobus, RTC... CTCUQ dans le temps.
Ouais.
On était dans le fond de l'autobus à rapper, à l'école, dans les parties, partout. C'est vraiment une obsession. Puis avec le temps, ben, on a toujours travaillé fort. Donc, rapper, verse, enchaîne un autre verse. Oh, tu rentres en studio, bon, tu fais des shows, tu sors un album, tu fais d'autres shows. Donc, de fil en aiguille, me voilà mon sixième album avec un bon bagage derrière moi.
Ouais, puis là, on parle pas là, d'un démo. Là. Il était rendu avec des vidéoclips, puis toute la patente. Là.
Ouais, tout à fait. Puis c'est drôle parce que je parlais avec un jeune aujourd'hui qui travaille fort aussi. Puis je disais, tu sais, tout ça, c'est de l'expérience que tu dois acquérir, puis il y a juste le temps, puis l'effort qui t'amène là. Puis je suis content de mon cheminement, tu sais. Je veux dire, je regarde toujours plus haut, tu sais. Je trouve ça cool, mais c'est pas encore où est-ce que je veux aller, tu sais. Sauf qu'il y a des belles choses qui se passent, puis j'en suis reconnaissant, là, à tous ceux qui me supportent, puis qui me critiquent aussi.
Et comment tu dirais où est-ce que t'en es rendu avec cet album-là? Comment tu décrirais ça, hein?
Ah, je dirais au niveau des textes, je me sens en pleine forme là. T'sais, j'ai rappé plus longtemps en anglais qu'en français. Puis Sagesse Mobile, ben c'était un premier projet où est-ce que tu sais, j'étais quand même satisfait de ce que je faisais en français, mais là tu sais, je sens que je suis passé à un autre niveau là personnellement. Au niveau de la musique aussi, les gars ont bien travaillé. Les instrumentaux sont plus matures, c'est plus musical aussi. J'ai des collaborations aussi beaucoup à l'extérieur du rap, dont Annie Poulain, qui chante du jazz, une fille de Québec. Clio, qui chante du blues de Québec aussi. Maïssa, qui chante en Wolof, qui est une langue au Sénégal. Donc j'essaie d'un peu de sortir de, disons, des sentiers battus, si on veut, là.
OK. Puis, bon, avant, tu parlais, là, il y a c'est Ellen, l'autre Ellen, avant.
Ouais.
Puis avant ça, t'as eu, c'était quoi, c'est les boss du quartier avant qu'il faut remonter? C'est ça qui vous a mis ça en map ou?
Ben, en fait, celui qui sort, c'est le vieux de la montagne. Lui d'avant, c'était Sagesse Mobile, ouais, avec ça. Ellen dessus. Avant Sagesse Mobile, c'était les boss du quartier,
okay.
Qui était le deuxième album des Limoilou Stars.
Ouais, mais c'est ça, j'aurais aimé ça qu'on en parle un peu. C'était ça qui vous a... Ben même aujourd'hui encore, ton Facebook, c'est Webster Limoilou Stars.
Tout à fait.
C'est quoi le collectif? Qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Bon, Limoilou Stars, c'est un collectif...
Parce que c'est pas fini, là.
Non, pas du tout. Limoilou Stars, on a toujours plus d'un tour dans notre sac, dans notre besace. En fait, LS, c'est plus que du rap, là. C'est vraiment de quoi de familial. Tu sais, on fait des soupers ensemble, tu sais, on est là, on a une discipline de vie aussi, tu sais, admettons un gars se trompe dans un show, ben il faut qu'il fasse des push-ups, t'arrives en retard à la réunion, tu fais des push-ups, on a des réunions, on a des tours de parole, des votes, c'est extrêmement démocratique, chaque chose est votée, même la truc la plus niaiseuse, c'est voté à tout le monde.
Là, c'est un collectif de rappeurs.
Oui, c'est un collectif de rappeurs, sauf que ça transcende le rap.
Okay.
Le rap, c'est ce qui nous a réunis au début, sauf qu'avoir vécu tout ce qu'on a vécu de négatif plus que de positif, c'est quelque chose qui nous a beaucoup soudés. T'sais, c'était comme nous contre le reste de la planète. C'est quelque chose qui nous a fait beaucoup développer cette ambiance un peu sectaire. Que tu sais, on avance, puis c'est la famille, puis tu sais, c'est très important. En fait, 2011, on fête les 10 ans là, de Limoilou Stars. On s'est
10 ans déjà?
Ouais. On a créé le collectif en 2001. Nous sommes tous des gens qu'on se connaissait depuis longtemps. D'ailleurs, Choudi, on se connaît depuis la garderie La Réponse au Cégep Limoilou.
Oui, ça date un peu, là.
Non, ouais, tout
vous rappelez déjà au CP.
Ouais. Donc, en fait, c'est ça. On a rassemblé des artistes qui étaient des gens avec du talent puis qui travaillaient fort aussi. C'était très important là, d'être dédié au projet puis de mettre l'effort pour. Donc, on a rassemblé environ... au début, Limoilou Style, le premier album, c'était une compilation. Il y avait peut-être 15 et 20 personnes dessus. Mais avec le temps, ça s'est cristallisé autour de 12 personnes. Puis maintenant, c'est les 12 patrons. Puis il pourrait y avoir 6, 7 personnes qui vont partir. Ça va toujours être les 12 patrons. Comme je dis tout le temps, chacun a sa chaise autour de la table. Comme il y en a un, le 12e, ben, sur les boss du quartier, il n'est pas vraiment là, mais sa chaise est là. Les réunions, il peut venir. Il a son droit de vote tout le temps, sauf qu'il n'est pas nécessairement sur les projets.
Toi, ce qui est un peu particulier aussi dans ce que tu sens, c'est qu'il y a tout un background politique qui est présent, social et politique. D'où ça devient ça, cette sensibilité-là?
Ben, je dirais plusieurs aspects, entre autres mes parents. Mes parents, ma mère, une syndicaliste acharnée de tous les combats.
D'accord.
Mon père qui a beaucoup milité pour le droit des immigrants aussi. Mon père est arrivé ici en 1970. Ça fait 40 ans qu'il est là. Donc, il a beaucoup milité justement pour l'intégration puis l'acceptation des immigrants ici. Puis aussi dans ma jeunesse, là, dans mon adolescence, là, dans mes âges les plus malléables, mes grosses influences, c'était surtout Malcolm X, Black Panthers, tout ça. Tu sais, des gens qui se levaient, puis qui disaient ce qu'ils pensaient, puis qui se battaient pour leurs droits. Donc, je pense que c'est de là que ça me vient en bout de ligne.
Puis sur cet album-là, est-ce que c'est encore aussi... aussi politique, est-ce qu'il y a des équivalents, des armes ou des vivres?
Ben, je vous dirais, oui, je touche à la politique, mais un peu moins. Dans le sens que le vieux de la montagne, c'est quelque chose de peut-être un peu plus introspectif. Sauf que j'ai une chanson, entre autres, sur la crise économique qui s'appelle Collet blanc. J'en ai une autre sur l'importance de l'eau, qui s'appelle L'Omélie. L'Omélie, E-A-U. Donc, non, tu sais, c'est sûr que je vais toujours toucher un peu de la politique. Même une chanson qui traite pas de politique, je vais toujours avoir une petite métaphore, une petite comparaison.
Un peu de politique, un peu d'histoire.
Ouais, exactement. Ben, un peu d'histoire aussi. C'est des choses qui font partie de moi aussi. Puis, c'est un grand tout, là.
OK. Ouais, ben, c'était quoi? C'est Jean-François, tu disais, c'était Radio-Canada qui l'avait dubé.
Le rappeur intello.
Oui, le rappeur était là. Je trouve ça drôle. Tu sais, ça me dérange pas. Tu sais,
je veux dire, c'est pas tout à fait faux.
Non, mais c'est ça. C'est pas tout à fait faux. Tu sais, puis je me sens pas aussi comme stéréotypé, comme le rappeur intello, tu sais, je veux dire, je suis ce que je suis, puis j'avance, puis qu'on me traite comme ça, je trouve ça juste drôle, tu sais. Puis en bout de ligne, si ça peut me faire avancer, puis si ça peut leur faire moins peur du rap, de c'est rien, ça existe, du monde qui disent des choses intelligentes, qui rappe à propos de Socrate ou je sais pas trop, tu sais.
Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Toi, t'es à Québec, puis t'es attaché à Québec quand même très fortement, là. Mm-hmm. Depuis longtemps, t'es quand même pas mal impliqué. Comment tu vois les choses, là, comment c'est en train de bouger, là? On a un maire hyperactif qui dit qu'il en fait pour la culture, qu'en même temps, il en fait pour d'autres choses aussi. C'est quoi ta vision de ça, là?
Bon.
Ça s'empire ou ça s'améliore?
Ouais, Québec, c'est drôle, c'est comme une espèce de relation schizophrénique un peu, là, dans le sens que on a un gros côté positif, où est-ce que, tu sais, t'as une espèce de sentiment d'appartenance très fort pour ce qui est de Québec. T'sais, on peut parler du quartier comme à Limoilou, mais pour Québec en tant que tel, même chaque quartier, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm, vraiment exact. Puis les gens, il y a une espèce de mobilisation générale pour des causes qui touchent la ville. Puis les gens sont fiers de la ville, puis c'est une belle ville aussi. C'est une très belle ville, très sécuritaire, où est-ce qu'il fait bon de vivre. T'sais, même dans les quartiers dits plus populaires, où est-ce qu'on essaie de nous faire croire que ça brasse. T'sais,
je veux dire, ouais, les gens qui pensent que Limoilou, c'est un gâteau. Là,
ouais, rien t'sais, bon, ça va. Là, t'sais, je veux dire, oui, des fois, ça peut brasser à certaines places, à gauche, à droite, comme n'importe où dans le monde. À cette île, ça brasse. Là. T'sais, même des fois, ça brasse plus qu'à Québec.
Effectivement.
Mais c'est ça, je veux dire, c'est une belle ville. Sauf que d'un autre côté, des fois, on a cette espèce de... comme on dirait, pas d'attitude de villageois où est-ce que l'étranger fait peur, mais tu sais, comme admettons la place qu'on laisse aux radios poubelles, entre autres, puis aux pensées un peu réactionnaires, voter conservateur, la mairesse Poucher qui passe dans le temps. Tu sais, c'est des aspects qui, des fois, que je trouve un peu plate de la ville, sauf que c'est ce que c'est, tu sais. Puis pour ce qui est de la bombe, personnellement, je trouve que c'est un maire qui, à quelque part, oui, tu sais, il prend sa ville à cœur. Puis tu vois qu'il veut foncer pour la ville, puis tant mieux. Mais je trouve qu'il essaie de faire souvent ça unilatéralement. Il n'y a pas beaucoup de consultations avec les gens, entre autres. Puis il me fait rire un peu cette habitude d'aller ailleurs, puis tout de suite vouloir prendre ce qui se fait ailleurs. Ah, ça c'est beau là-bas, on l'amène ici. Ah, hey, ça se fait là-bas, on l'amène ici. Come on, là, ça fait un peu genre voisin jaloux de ce que l'autre y a à côté. Là, je veux une plus grosse piscine, je veux un plus gros char, une plus grosse télé. On ne peut pas se concentrer pour faire nos propres trucs. Sauf que j'aime mieux un maire proactif qu'un maire limace qui est assis là puis qui se laisse porter, tu sais.
Ouais, c'est sûr. En même temps, en termes d'activité, il est même hyper proactif.
Ouais, mais c'est ça, tu sais, des fois, oui, tu sais, il manque de classe, là, tu sais. Je l'ai vu à Infoman une fois, là, c'est le truc du 400e, il me montrait les cadeaux qu'il a reçus des différents maires. Puis là, il était là, ouais, alors, j'ai reçu ça de Bordeaux, j'ai reçu ça de Paris. J'ai reçu ça d'une ville en Afrique. Je sais pas c'est quoi, attention. Tu sais, c'était comme... C'est un peu... Ouais, manque de classe, tu sais. Sauf que, bon, il arrive ce qui arrive, tu sais.
Effectivement. Bon, on a touché à la politique puis à la municipalité. Ouais, ben Québec, tu disais là que vous étiez une cinquantaine d'amateurs au total quand tu as commencé à rapper. Aujourd'hui, c'en est où la scène? Y a-t-il une place pour le hip-hop?
Écoute, moi, je suis un peu... Tu sais, le vieux de la montagne, c'est pas pour rien, tu sais. Ça a plusieurs raisons. Donc, entre autres, le fait, je suis un peu comme un grand-papa ici. Tu sais, je vois ce qui s'est passé. Là. J'ai commencé quand j'étais ticu, puis il n'y avait rien qui se passait. Puis maintenant, le rap est partout. Les gens en écoutent partout. Tout le monde en fait. Je trouve ça tellement le fun de voir ça. Mais ce qui manque encore, c'est le soutien d'en haut. C'est-à-dire de reconnaître le rap comme faisant partie de la culture québécoise à pleines dents. Là. Tu sais, les gens le reconnaissent peu à peu, sauf qu'il est temps que les gens arrêtent d'avoir peur puis s'approprient leur rap. Je parle de la culture québécoise en général. Il y a de quoi de positif à amener puis d'intelligent avec le rap. Puis plus vite on va l'embrasser, puis plus vite on va avoir, je pense, plus de cohésion au niveau des jeunes. En tout cas, au niveau issu du hip-hop, les gens sont fiers d'être issus d'ici, sont fiers d'être Québécois, mais il manque toujours notre siège autour de la table, la culture québécoise, tu sais. Mais ça va venir. On est en train de le gosser, là.
Tranquillement, pas vite.
Tranquillement, pas vite, avec nos lames, là.
Puis, pour ce qui est du hip-hop conscient, est-ce qu'on va voir émerger une Kenny Arcana québécoise à un moment donné, ou un...
Je l'espère. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes, surtout les jeunes filles là, que je rencontre. Parce que je donne des ateliers d'écriture aussi, souvent, oui, à gauche,
vrai,
à droite. Donc, je rencontre des jeunes, puis je leur dis, tu sais, faut pas lâcher, mets l'effort. Puis on a besoin de plus de filles qui rappent, puis de toutes sortes de gens, tu sais. Puis comme je leur dis, soyez vous. Tu sais, t'as pas besoin d'être un gangster pour rapper. T'as pas besoin d'être dans la rue, faire du crime ou quoi que ce soit. Tu sais, t'as juste à avoir des bonnes idées puis les mettre l'une après l'autre. Puis
ouais, idéalement, si tu veux continuer de rapper, il faut pouvoir se rendre au studio.
Ben, exact. Puis ça, c'est ce que je leur dis aussi. Parce que, écoute, tu t'enregistres ton album. Puis ça, c'est un fait vécu, là. Un de mes amis, c'est ça qui est arrivé. Il a enregistré son album extrêmement attendu. Il s'est fait arrêter, genre, 3 jours après la sortie de l'album. Il est encore en dedans. Puis ça fait un bout, là, puis son album, ben, les gens l'ont apprécié, sauf qu'il a pas pu faire la promotion, ouais, il a pas pu faire les shows, il a pas pu faire des articles. Exact. Puis lui, il s'est rendu compte, il s'est dit, ouais, ça... Fait que des fois, c'est un choix à faire, puis faut pas suivre tout ce qu'on entend dans les vidéoclips américains. Là. C'est comme des films d'action, prenez ça à la légère un peu. Là.
C'est du divertissement.
Ouais, exact. Mais là, malheureusement, à cause de nos restrictions d'horreur, il faut l'attirer avec un mot de la fin.
Ben oui, mais attends, là, ça sort le 26 octobre,
ouais. C'est
un lancement.
Balance ça.
OK, 26 octobre en magasin, lancement le 27 octobre au DAG, mercredi, 29 octobre à l'Impérial, dans le cadre aussi du lancement de la compilation HHQC, qui va être une grosse compilation avec tous les meilleurs rapports, ben, du moins des meilleurs rapports au Québec. Donc, c'est un lancement conjoint. Allez chercher ça. C'est un album que je suis très fier de vous présenter. Il y en a pour tous les goûts, pour les adultes, pour les jeunes. Il y a de quoi pour t'asseoir puis réfléchir, puis il y a de quoi pour te lever puis partir à courir.
Hey! Ben, merci beaucoup.
Ben, merci à vous du support, hein. Voix de fêche avec vous. J'ai
oublié d'amener mon sticker interdiction freestyle ici.
C'était Webster, puis moi, ben, Nicolas avec...
Farouko et Jenny qui est coupé de micro.
Oui, Jenny qui s'est fait voler son micro. Puis on s'en va en musique et c'est pas mal la fin, hein, c'est ça?
Yeah, on s'en va avec Damien Jr. Kong Marley avec We're Gonna Make It. Yeah.
Look on the brighter side of life, you know? No more. Hey. Now don't you ever give up, don't you ever give in. Don't you ever give up, don't you ever give in. Don't you ever give up, don't you ever give in. We will love our way someday, yeah. Don't you ever dirty, cause I better you clean. He love King Selassie plus Omega the Queen. Don't you ever give up, don't you ever give in. Cause I know we're gonna make it. It's not too late, no. We're gonna make it. Yeah, yes I know.